Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur un événement ou une problématique qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mots de passe. Alors avec moi sur ce podcast, nous avons Nicolas.
Bonjour.
Guillaume.
Bonjour.
Et donc moi-même, Johan. Donc pour évoquer cette problématique, on a vu par exemple récemment l'événement The Fapning où des photos personnelles se sont retrouvées sur Internet. Il semble que ça soit lié à des mots de passe qui étaient faibles. Donc en matière de mots de passe, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors déjà, moi j'ai envie d'arrêter tout de suite. Les mots de passe n'étaient pas forcément faibles. Enfin, ce qui est surtout, on ne sait pas d'où vient le vol de ces photos, puisque c'était le sujet de notre dernière émission. Mais dans tous les cas, même si les mots de passe n'étaient pas si faibles, quand tu peux brute forcer des milliers de mots de passe et que personne ne se rend compte et qu'il n'y a pas de verrouillage de compte, au bout d'un moment, tu peux toujours finir par trouver le mot de passe de beaucoup d'utilisateurs d'iPhone. Et même si les mots de passe sont très forts, il y a aussi une autre hypothèse sur cette histoire de Fapning, c'est un phishing ciblé sur le mot de passe et la question secrète. Et dans ces cas-là, t'as beau avoir suivi toutes les bonnes pratiques en mot de passe et en choix de la question secrète, si tu décides de le rentrer dans une interface web parce qu'elle ressemble vraiment à celle d'Apple et que tu penses qu'il faut que tu le tapes à ce moment-là, bah ton mot de passe, il est juste mort, quoi.
En fait, la robustesse, enfin par rapport à ta question sous-jacente sur le mot de passe, c'est toute la chaîne qui est impactée. Donc, il n'y a pas que la longueur, la combinaison du mot de passe. Il y a la méthode de vérification du mot de passe, le stockage éventuellement du mot de passe ou des credentials de l'autre côté. Il y a les endpoints où évidemment dans les interfaces web, Bootstrap et la Total, bon, t'as un captcha tout ça. Mais quand tu passes par une API type Find My iPhone ou directement JSON ou ce que tu veux et que tu peux brute forcer comme un fou sur des hash ou des SHA-1, des choses comme ça, c'est toute la chaîne qui est impactée. Donc c'est pas forcément que la longueur du mot de passe, quoi.
J'ai peut-être mal posé ma question, c'est vrai. En fait, je voulais vous demander, je suis un particulier, j'ai pas une expérience extraordinaire et des compétences techniques extrêmement fortes. Comment est-ce que je dois gérer mes mots de passe ?
Je crois qu'il n'y a que deux règles, et il me semble même qu'on doit pouvoir les trouver sur le site de l'ANSSI. La CNIL avait fait un très bon papier là-dessus. La première règle, c'est que ton mot de passe critique, c'est celui de ta messagerie. Parce que, quelle que soit la qualité de tes mots de passe sur les services en ligne, si tu perds ton mot de passe, ils te renverront un lien dans ta boîte mail. Donc, si jamais quelqu'un a accès à ta boîte mail, il peut réinitialiser les mots de passe de tous les autres services. Mm-hmm. Et la deuxième règle de base, c'est de jamais réutiliser les mots de passe. Et en particulier celui de ta messagerie, parce qu'à la limite, si tu utilises le même mot de passe sur tous les sites pourris où tu es allé une seule fois et voilà, tu sais que tu retourneras jamais sur le site et tu n'as pas laissé de numéro de carte bleue, rien du tout, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais ton mot de passe de messagerie, il doit être utilisé nulle part ailleurs. Et si ton fournisseur de messagerie a des trucs du genre authentification à deux facteurs ou choses comme ça, c'est fortement recommandé d'activer, quoi. Tous les fournisseurs sérieux proposent ça aujourd'hui. Hein.
D'accord. Alors, la question sous-jacente, c'est comment est-ce que je gère des mots de passe différents pour des sites différents, justement, puisque je ne dois pas réutiliser le même mot de passe.
Je pense que tous les algorithmes de génération de mots de passe qu'on t'a expliqué à l'école ou que tu trouves dans les guides de sécurité qui ont plus de 3 ans, les trucs du genre prenez une phrase et prenez la première lettre de chaque mot, etc., ça sert à rien, c'est mort. Tu regardes les concours de mots de passe qu'il y a aujourd'hui, aussi bien à DEFCON, enfin le truc organisé par CoreLogic ou la conférence Password, qui doit être sa 3e ou 4e édition, à partir d'un hash, même SHA-256, les gars, enfin en gros, les gars qui finissent en général premier, c'est l'équipe de OCLH4, et ils arrivent à te trouver des mots de passe qui sont juste... même toi, en tant qu'humain, tu n'as pas idée qu'on pourrait générer des mots de passe pareils. Alors après, il y a des trucs qui s'expliquent. Hein. Il y a des patterns sur le clavier, par exemple, qui génèrent des trucs qui ont l'air assez solides. Mais en fait, quand tu sais que c'est une pattern sur le clavier QWERTY, bon, c'est très facile à trouver. Donc à la fin, Je dirais qu'il n'y a pas de bonne solution pour générer ton mot de passe. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut avoir des mots de passe aléatoires. Et
Ouais.
après, si tu as des mots de passe aléatoires, bah là, il faut obligatoirement avoir un password manager parce que tu ne peux pas retenir des mots de passe base 64 de 32 caractères sur chacun des sites où tu vas. Et là, bah, je crois que l'ANSSI a récemment labellisé KeePass. Après, il y en a plein d'autres qui sont bien, mais des fois, c'est des services en ligne, donc ils sont pas forcément labellisés et puis ils sont pas forcément promus, mis en avant par des entités étatiques qui sont astreintes à une certaine retenue vis-à-vis des fournisseurs commerciaux, on va dire. Mais tu as plein de solutions. Je sais pas, Guillaume, tu voulais parler de Dashlane ou des trucs comme ça, par exemple, ou LastPass.
Oui, bah après c'est parce que je connais un petit peu les gens qui ont monté ça, mais bon je l'ai essayé et puis bon moi je personnellement donc j'utilise des si on peut parler de nos usages hein, personnellement j'utilise des mots de passe aléatoires. Bon fut un temps j'avais une racine aléatoire et puis des combinaisons derrière en fonction des sites de LinkedIn.
Ouais.
Bon aujourd'hui j'utilise Révélation. Bon, j'ai un password manager, voilà, en local, sur mon disque, pas de synchro en ligne, et puis c'est du rsync, et enfin, je fais ma synchro moi-même, et parce que par principe, j'aime pas devoir dépendre d'un service en ligne ou d'un quelconque serveur dont j'ai pas la maîtrise pour stocker, aussi sécurisé que ce soit, afficher mes credentials, quoi. Donc, il y a pas mal de solutions qui existent. Qui passe, XPass, enfin Révélation, ça dépend des environnements dans lesquels on se trouve. Voilà, moi je fais ça.
D'accord. Et est-ce que tous les mots de passe doivent être, on peut mettre, est-ce qu'on peut mettre tous ces mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe ou, comme le disait Nicolas, est-ce que par exemple son mot de passe de messagerie, eh bien celui-là, il faut s'assurer qu'il soit vraiment très très fort et que tu le retiennes, qu'il soit dans ta tête uniquement.
Honnêtement, la plupart des sites, tu risques pas grand-chose à te faire voler ton mot de passe. Après, le seul vrai gros risque, c'est sur ton adresse de messagerie principale. Et là, t'as peut-être pas intérêt à le mettre dans ton password manager.
Non.
Et en plus, tu as peut-être intérêt à activer de l'authentification à deux facteurs ou mettre des limitations, tu vois, si ton fournisseur te le permet, restreindre l'accès par adresse IP ou des choses comme ça, quoi. Mais après, je dirais que c'est à chacun de faire son analyse de risque. Si tu as un site comme Amazon ou eBay qui mémorise ton numéro de carte bleue et tu peux faire des achats avec, juste avec ton mot de passe, bon, là, faut peut-être, disons.
L'Apple Store.
Ouais, l'Apple Store, mais l'Apple Store, il te propose pas de mémoriser ton mot de passe. Donc, de toute façon, soit tu as un mot de passe bidon, soit tu as un mot de passe manager, quoi.
Ouais, le problème des mots de passe, c'est aussi celle des interfaces. Donc, sur un ordinateur avec une passe-phrase, mon révélation, avec un vrai clavier QWERTY ou AZERTY plutôt, ça le fait. Sur un écran tactile avec mes gros doigts boudinés, où j'arrive même pas à appuyer sur les touches du clavier virtuel, ça me fait un peu chier de relever mes mails, quoi. Donc soit on le fait, soit je pense pour voir les usages des gens, le mot de passe il est très très faible.
Oui, mais alors après, dans le cas d'un téléphone, par exemple, alors il y a deux cas. Disons, pour la messagerie, tu peux générer des mots de passe applicatifs. Donc en fait, l'idée, c'est tu génères pour chacun des systèmes, enfin chacune des applications qui doit accéder à ton mail.
Oui, bien sûr.
Ça peut être ton client messagerie sur iPhone, ça peut être ton Thunderbird, ça peut être un autre truc, etc. T'as un mot de passe différent et comme ça tu peux révoquer individuellement les accès, surtout contrôler les accès. Parce qu'autant ton iPhone il va peut-être se connecter n'importe où, autant quand tu lis ton mail depuis un browser, tu fais souvent depuis ton PC à la maison qui a une IP fixe. Et donc là s'il y a un truc bizarre, si tu as accès au log de connexion, tu peux voir que quelqu'un a utilisé ton mot de passe de browser pour se connecter depuis la maison. Donc Gmail sait faire ça par exemple. Là,
Oui, c'est ce que j'utilise sur Gmail. C'est vrai que c'est pas mal. Du coup, au passage, ça me fait penser à quand tu relèves tes mails dans ton browser. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la choucroute, mais je le dis. Éviter de demander au browser de stocker les mots de passe, les formulaires. Si ça vous intéresse tout de même de le faire, même si c'est pas une sécurité très avancée, de chiffrer quand c'est disponible. Le store des mots de passe, des credentials stockés dans le navigateur.
Mais là, autant utiliser un gestionnaire de mot de passe, non?
C'est clair.
D'un côté, le scénario de risque entre mémoriser le mot de passe dans le navigateur ou utiliser un site en ligne type Dashlane ou LastPass, bon, je dirais que le risque pour moi il est à peu près équivalent. Hein. Alors c'est vrai qu'après il y a deux types de mémorisation.
Perdre son laptop ou l'envoyer en réparation, c'est pas exactement pareil enfin, ça va très très vite quand même.
Ouais, mais alors après, ça c'est un risque qui dépasse les mots de passe. Parce que
Oui, bien sûr.
si ton laptop part en réparation, ok, il y a tous tes mots de passe, mais il y a aussi un répertoire avec toutes tes photos, il y a ton PST, enfin au moins ton cache IMAP ou des trucs comme ça qui sont stockés en local. Donc de toute façon, tu as intérêt à faire du full disk encryption sur ton disque dur. Je dirais que effectivement, après, il y a deux niveaux. Il y a la mémorisation des mots de passe dans le navigateur, qui en général se fait en local, voilà, dans une base SQLite ou autre. Donc éventuellement, tu es protégé si tu chiffres ton profil d'utilisateur, enfin ta home dir sous Linux ou si tu fais du full disk encryption. Et après, il y a un deuxième niveau qu'ils proposent tous maintenant, enfin au moins Chrome et Firefox, mais sur IE, je sais pas, sur Opera non plus, j'ai pas regardé. Mais maintenant, avec Firefox 5, par exemple, avec Chrome, ils te proposent de stocker tes mots de passe mémorisés chez eux. Ce qui fait que quand tu te reconnectes sur un autre navigateur avec le même profil, le mot de passe est redescendu et retapé dans ta nouvelle instance. Et le risque n'est pas tellement différent de celui d'utiliser un password manager en ligne.
Bah, c'est exactement pareil, tes credentials partent
Dans le cloud.
dans le cloud.
Ok, on a fait le tour en matière de mauvaises et de bonnes pratiques. Alors si on regarde un petit peu, si on essaye de regarder dans cette fameuse boule de cristal, et non pas bouse de cristal, hein,
On peut voir de la bouse dans ta boule de cristal aussi, mais
Alors, qu'adviendra-t-il des mots de passe? Est-ce que on utilisera toujours ces mots de passe dans 5-10 ans?
moi, je pense que non.
Moi,
La
je pense que
tendance.
oui.
Tu penses que oui, toi?
Bah, en fait, si vous voulez, c'est comme IPv6 et toutes ces conneries. Ça commence à me gonfler. Ça fait combien d'années qu'on nous dit la sécurité est un échec, les mots de passe, c'est moisi, il faut arrêter de mettre des mots de passe. Enfin, je sais pas, moi, j'ai commencé au siècle dernier, quoi. Donc, et aujourd'hui, on est avec des mots de passe. Voilà. Donc,
Millénaire dernier, tu veux dire.
pardon?
Tu as commencé au millénaire dernier, la sécurité informatique.
Ouais, non, mais ça, c'est des dinosaures. Ouais, voilà, donc, bon. Ce que je vois, c'est que certes, tu as des authentifications fortes un peu partout, plus ou moins bien faites, plus ou moins, mais 90% des usages que j'ai en particulier, puisqu'on est sur la plupart des sites, c'est mot de passe, quoi. C'est mot de passe partout, mot de passe de messagerie, mot de passe de ton compte, mot de passe, tu tapes ton mot de passe App Store, tu tapes ton mot de passe, voilà. Donc il y aura peut-être des. Les avancées, je pense pas qu'elles soient sur les avancées technologiques, elles sont sur les usages. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on va traîner ça pendant pas mal d'années.
Alors là, je suis pas d'accord. Alors autant en entreprise, je suis d'accord parce que enfin, tu vois, tu as tout un tas de legacy, ton imprimante, voilà, elle supporte que les mots de passe, il faut un truc pour ton routeur, il faut un truc machin. Bon, tu as plein d'applis d'entreprise effectivement qui gèrent l'authentification par login mot de passe et qui sont pas capables de faire autre chose. Mais tous les sites qui se sont lancés ces 3 ou 4 dernières années, ils te supportent l'authentification avec un compte Facebook ou un compte Google Plus, enfin un compte Google tout court d'ailleurs. Parce qu'en fait, pour eux, c'est plus intéressant justement de déléguer l'authentification à un tiers. Qui va gérer tous les problèmes de spam, de création de compte, et qui va en plus apporter de la valeur ajoutée parce que le compte est lié avec tout un tas d'informations de profil comme une adresse email, des choses comme ça, plutôt que de gérer eux-mêmes une base d'utilisateurs avec des mots de passe et autres. Et aujourd'hui, va sur tous les sites 2.0, enfin c'est même plus 2.0, c'est 3.0 qui sortent, ils ont tous l'option se loguer avec Facebook ou se loguer avec Google.
Bah oui, je sais bien, moi j'en sors un là, j'en fais du host, machin, parce que ça me gave de stocker, de gérer ces mécanismes-là. Mais
Ouais, mais ça, dans 10 ans, c'est l'avenir, quoi.
d'un
Alors,
autre côté, cette authentification qui est faite avec Google ou Facebook, c'est toujours un mot de passe.
oui, mais c'est plus, t'as plus besoin de créer un compte par site et on te dit mettez un mot de passe différent et t'es obligé d'avoir un password manager, etc. Là, t'as un mot de passe et ton mot de passe il débloque tout.
Ok, donc les mots de passe ne vont pas disparaître, mais il y en aura moins.
Alors. Ça, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est que je pense que les mots de passe vont aussi disparaître parce que énormément de gens travaillent à la suppression des mots de passe et un certain nombre de gens y arrivent. Typiquement, les fabricants de cartes bleues. Aujourd'hui, quand tu payes en NFC, il n'y a plus de mot de passe, il n'y a plus de code PIN. tu présentes ta carte, tu payes. Eux, ils ont fait une évaluation du risque que ça représentait, donc tu peux pas payer des 1000 et des 100, mais ils partent du principe qu'il vaut mieux payer sans mot de passe et éventuellement te rembourser et annuler les transactions a posteriori, plutôt que de faire chier tout le monde avec un code PIN et des choses comme ça. Pareil, tu vas aux US, tu achètes des cartes SIM pour téléphone portable, c'est très très rare qu'elles aient un code PIN. En France, tu achètes ta carte, alors avant tu avais un code PIN qui était embossé sur l'emballage de la carte, etc. Maintenant, tu vas chez Free Mobile, tu commandes une carte SIM, le PIN c'est 1, 2, 3, 4 pour tout le monde. Et je pense que 95% des utilisateurs Free Mobile n'ont pas changé leur code PIN parce qu'ils savent pas comment faire avec leur téléphone. Et ça, c'est juste pour la partie, en gros, on supprime les mots de passe et on déplace le risque d'usurpation du côté du fournisseur qui, lui, va faire des analyses heuristiques, va pouvoir te révoquer rapidement, des choses comme ça. Et la deuxième partie, c'est la suppression complète du mot de passe avec des systèmes à base de Touch ID ou autre. Parce que quand même, l'iPhone, le Samsung, on a un lecteur d'empreintes, après tu as un NFC.
Ouais, d'accord. Mais dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Parce que quand tu dis on met un code PIN sur les cartes SIM 000 ou 1234, et que du coup on n'en a rien à cirer parce que de toute façon les gens ne sauront pas le changer, ça veut pas dire qu'on supprime le mot de passe et qu'on l'a remplacé par quelque chose. Ça veut juste dire qu'on supprime le mot de passe parce que bon, en fait, ça sert à rien, quoi.
Ben oui, donc le mot de passe peut disparaître à la fin, parce qu'il sert à rien. En fait, il y a beaucoup plus d'indicateurs qui sont beaucoup, enfin, il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus intelligents. Par exemple, ta banque, elle sait si tu as acheté un billet d'avion. En tout cas, si tu as payé avec ta carte bleue, ce qui est en général le cas, parce qu'il y a peu de gens qui achètent en liquide leur billet d'avion, ils savent que tu pars pour Bangkok. Donc après, si tu fais un retrait dans un distributeur de Bangkok, ils sont capables de mettre un niveau de risque sur ce retrait. Et tu peux faire exactement la même chose avec des mots de passe. Tu peux savoir que l'utilisateur, il a son téléphone dans la poche, tu peux éventuellement lui demander de faire un truc en NFC, mais même sans NFC, tu sais qu'il a le téléphone dans la poche, tu sais qu'il a été actif à tel endroit, tu sais que, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de technologies, d'usages qui vont apparaître et qui vont supprimer le mot de passe dans les cas où il n'est pas strictement nécessaire. Je pense que terme, tu pourras rentrer sur ton compte Facebook sans taper aucun mot de passe. Sauf si tu te logues pas de chez toi à une heure à laquelle t'as pas l'habitude de te loguer.
Et sans un autre facteur comme un facteur biométrique par exemple.
Non, parce que il y a un certain nombre de cas où t'es capable de dire cet utilisateur il est tout seul chez lui. Il n'y a jamais eu qu'un seul utilisateur derrière cette adresse IP, donc il est pas marié, il a pas d'enfant, etc. Et donc, quand il se log à telle heure sur son compte, c'est normal, il n'y a pas besoin de mot de passe, quoi.
Ouais, enfin, oui, bon, ça, c'est ça, parce que tu penses à Google, tu penses à des majors, mais évidemment, c'est ce qui touche 90% des usagers. Mais il y a quand même des tas d'environnements, des tas d'endroits. Je pense à un automate programmable avec un mot de passe par défaut qui ne sera jamais changé. Et encourager ou dire, et qui se boot force très bien sur Internet, ce que tu veux, je pense qu'il y a quand même ça peut être un peu dangereux de désensibiliser les futurs usagers qui seront aussi bien à relever leur mail et puis ingénieurs ou je sais pas quoi dans leur boîte à la problématique du mot de passe.
Bah, honnêtement, avant les gens ils brossaient leurs bougies dans leur voiture. Déjà les bougies maintenant tu les vois plus, mais en plus quand j'ai voulu brosser la bougie sur mon scooter, on m'a dit mais pas du tout, le revêtement de la bougie c'est du titane machin et il y a un traitement spécial et donc si tu brosses ta bougie elle est foutue quoi en gros. Et je pense que les mots de passe c'est pareil, on a essayé de sensibiliser les gens sur le fait qu'il fallait des bons mots de passe. Résultat, certains ont mis des bons mots de passe, ils se les sont fait voler quand même parce que côté serveur c'était géré n'importe comment ou il y avait des sites de phishing qui étaient super bien faits. Et la conclusion logique de tout ça, c'est que la sensibilisation est un échec et qu'il faut partir du principe que si tu files des mots de passe aux gens, ils se les feront voler et trouver d'autres solutions. Et les automates programmables qui ont un mot de passe par défaut, jamais changé, qui est dans la doc du constructeur, je vois pas l'apport que ça a de mettre ce mot de passe par rapport à pas mettre de mot de passe. C'est d'ailleurs l'approche qu'ont eu des gens, tous les gens qui font du MongoDB, des bases NoSQL, des trucs comme ça, ou des trucs, je crois que c'est Redis ou des choses comme ça.
Redis,
c'est des systèmes sans mot de passe, c'est-à-dire que si tu as accès IP
y a pas de mot de passe,
au système, tu as accès à tout. Et ils ont dit, ça sert à quoi de mettre un mot de passe qui est admin-admin, comme dans Tomcat, tu vois, il y avait ce fameux Tomcat Manager, tout le monde s'est fait router avec ça. Maintenant, tu n'as plus de mot de passe par défaut. Par défaut, personne ne peut se loguer, il faut que le gars, il aille éditer à la main le fichier XML qui rajoute des comptes s'il veut utiliser cette fonction. Et c'est des approches qui sont pas déconnantes parce que on a l'expérience de de 10 ans de mot de passe par défaut où ça n'a pas marché. Il vaut mieux une bonne règle de firewall qui empêche l'accès au système plutôt que d'avoir un système ouvert sur Internet avec un mot de passe par défaut et tu crois que personne ne va le trouver. Quoi. Bon, après, c'est de la boule de cristal. Hein. Peut-être que dans 10 ans, on aura tous des puces bioniques implantées sous la peau qui auront des listes de mots de passe qui apparaîtront en impression rétinienne et que du coup, on pourra mettre des mots de passe partout.
Ah oui, ça c'est sympa, ça.
Et vu que déjà la carte d'identité électronique en France, ça a l'air d'être complètement mort, je pense que il y aura quelques fournisseurs d'identité type Google, Facebook, et puis le reste, ça se fera sans mot de passe. Quoi. Bah, de toute façon, tout ce qui est pareil, objet connecté, tu ne dois pas taper un mot de passe dans ta voiture pour démarrer ou un mot de passe pour ouvrir ton frigo. Donc, quand tu auras une montre, un frigo, un micro-ondes, une voiture, un ascenseur et un compteur électrique intelligent, ils n'auront pas de mot de passe. Ce sera le fait d'être devant le frigo qui te permettra d'ouvrir la porte et d'accéder au contenu. Donc, tu auras une contrainte physique, mais il n'y aura pas de mot de passe.
Pour conclure, en matière de bonne pratique, Nicolas, qu'est-ce que tu nous conseilles ?
Bah, je crois qu'on est d'accord avec Guillaume. Protéger sa messagerie, et pas seulement avec un mot de passe, mais aussi avec une question secrète introuvable et une authentification à deux facteurs.
Ouais, surtout l'authentification à deux facteurs, hein, c'est ça qui est super important.
Et après, pour le reste, utiliser un password manager tant que tu en as besoin, mais en privilégiant aujourd'hui tous les services qui vont faire de l'eau haute et qui vont t'authentifier à partir d'un seul compte, plutôt que d'aller créer des dizaines de comptes avec des mots de passe aléatoires que tu pourras pas taper sur ton téléphone sur des services où tu sais pas comment ils stockent ton mot de passe. Quoi.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on espère vous retrouver très prochainement. À bientôt.
Au revoir.
Et à vous.